إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et le livre, ou bien le commentaire de Cheikh al-Fawzan s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc c'est un commentaire très très bénéfique. On commence donc avec le passage numéro 24 dans le volume 1, à la page 63. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite un hadith, et c'est un hadith rapporté dans At-Tirmidhi. C'est le hadith 2953 dans Sunan At-Tirmidhi, et c'est rapporté selon Adi ibn Hatim. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: قال عدي بن حاتم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال نعم. فلقيته امرأة صبي معها فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بداره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما يفرك، أيفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال فقلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. Donc qu'est-ce que on va traduire le hadith, OK? Le hadith est rapporté selon Adi ibn Hatim. Il dit: je suis allé voir le prophète. Premièrement, il faut savoir que Adi ibn Hatim était chrétien, puis il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Donc il dit: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était assis dans la mosquée. Alors les gens ont dit: voilà Adi ibn Hatim. Il a dit aux gens, ou bien lui, les gens ont dit plutôt: voilà, ça c'est Adi ibn Hatim. Il dit, et je suis venu sans aucun, sans entente de paix et sans, sans contrat, sans rien. Alors il dit, quand je suis arrivé, on m'a amené à lui et il a pris par ma main. C'est-à-dire, il a pris ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main. Et il a dit, وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ. Il dit, avant ça, il avait dit, j'espère qu'Allah mettra ma main en sa main. Ou il prendra ma main par sa main. Alors qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue avec un enfant et elle a dit, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi. C'est-à-dire, ils avaient besoin de parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à l'écart pour parler avec cette femme et pour répondre à son besoin. Hein? Ensuite, il a pris ma main, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris ma main et il m'a amené dans sa maison. Et la servante m'a jeté un coussin pour que je m'assoie dessus et je me suis assis. La servante a jeté un coussin pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoie dessus et moi je me suis assis devant lui. Et il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a dit, qu'est-ce qui te fait fuir? Est-ce que tu fuis? Est-ce que ce qui te fait fuir c'est de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah? Il dit, est-ce que tu connais une divinité en dehors d'Allah? Il a dit non. Alors il a parlé longuement. Puis il a dit ensuite, est-ce que ce qui te fait fuir d'accepter l'islam, c'est de dire Allahu Akbar, c'est-à-dire que Allah est le plus grand? Connais-tu quelque chose de plus grand qu'Allah? Et Adi ibn Hatim a dit, j'ai dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs ont la colère d'Allah sur eux. Et les chrétiens sont des égarés. Alors Adi ibn Hatim a dit, alors dans ce cas-là, je suis un hanif musulman. C'est-à-dire, je suis un musulman, je m'écarte des idoles et je me tourne vers Allah seulement. Alors il dit, Adi, j'ai vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devenir plein de joie et il est devenu comme heureux et content. Et il a rapporté donc ce hadith-là, qui est un long hadith rapporté par Tirmidhi, qui est Hassan Gharib. Naam. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique cette histoire-là maintenant. Il dit, « هذه قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه. » Ça, c'est l'histoire de l'islam, comment Adi ibn Hatim a accepté l'islam. Il dit, « وأبوه حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم. » حتى ضرب به المثل وسمي الطائي نسبة لجبل طية لجبل طية أو طي المعروف. Il dit que son père, le père de Adi ibn Hatim, son nom c'était Hatim al-Ta'i. Son père s'appelait Hatim al-Ta'i. Et il était célèbre pour sa générosité et pour sa noblesse. Et même qu'il était devenu tellement célèbre que, on a fait de lui un exemple ou un proverbe. Quand les gens parlaient de lui, les gens parlaient de lui comme un exemple ou un modèle. Et on l'a appelé At-Ta'i ou At-Tayyi. La raison pourquoi on l'a appelé comme ça, c'est à cause d'une montagne qui a le même nom. Wa kana sayyidan fi qawmihi. C'était un des chefs parmi les gens de son peuple. فَلَمَّا مَاتْ صَارَ ابْنُهُ عَدِيُّ مَكَانَهُ. Donc lorsque son père est mort, c'est son fils Adi qui a pris sa place et qui est devenu le chef. أَخَذَ السِّيَادَ عَلَى قَوْمِهِ. C'est-à-dire c'est lui qui est devenu le chef de son peuple ou des gens de sa région. عَلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ. يعني, avec tout ce qu'ils avaient comme affaires qui sont des affaires de la jahiliya chez eux. فلما ذهبت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم الى جبل طي ونصرهم الله هرب عدي الى الشام خشيه على نفسه. Donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec ses armées vers la région de cette montagne qu'on appelle la montagne de Tay, là où Adi ibn Hatim était le chef. Allah a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans contre eux. Alors Adi s'est enfui vers la région de yani la Syrie, la Palestine, cette région là il s'est enfui parce qu'il a eu peur pour lui-même. Wa kanat ukhtuhu fi as-sabi الذي جاء به الى المدينه. Et la sœur de Adi faisait partie des prisonniers qui ont été pris et qu'on a ramené à Médine. Hein? Elle a fait partie des prisonniers de guerre qu'on a pris pour ramener à Médine. Alors, il a dit wa kanat kabirat as-sin hakima wa aqila. فطلبت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فسمح لها بالمقابلة. Donc cette sœur de Adi, elle était assez âgée, d'un âge avancé, et elle était sage et raisonnable. Alors elle a demandé pour pouvoir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de rencontrer la sœur de Adi. Et il dit ensuite فأخبرته أنها إنما هي امرأة كبيرة السن لا نفع فيها وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها فمن عليها وأطلقها. Donc elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم qu'elle était une vieille femme et qu'il n'y avait aucun bienfait en elle pour lui. C'est-à-dire en voulant dire que je suis une vieille femme et vous ne pouvez pas profiter, je ne peux être d'aucun bienfait pour vous parce que je suis devenue une vieille femme. Et donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la laisser partir. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir. ثم إنها أرسلت إلى أخيها بالشام تطلب منه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, elle a envoyé une lettre à son frère en Syrie ou dans la région du Sham pour dire à son frère de venir voir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقابل السيئة بالسيئة وأنه يعفو ويصفح وأذهبت الخوف الذي كان في قلب أخيها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc elle a informé son frère au sujet du prophète صلى الله عليه وسلم. Elle lui a dit il ne remet pas un mal par un mal. On va dire que lorsque tu as fait un mal au prophète صلى الله عليه وسلم ou aux musulmans, mais lui il ne va pas te répondre par un mal, il pardonne et il excuse. Et elle a fait partir de son cœur la crainte qu'il avait, la crainte que son frère avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est venu lui-même rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَدَخَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ. Il est rentré dans la mosquée et il a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالُوا لَهُ هذا عدي بن حاتم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وذهب به إلى بيته. Donc quand il est rentré dans la mosquée, les sahaba ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم voilà Adi ibn Hatim. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم s'est levé pour le rencontrer et il l'a pris par la main et puis il est parti avec lui vers sa maison, pour rentrer dans sa maison. Il dit وفي أثناء طريقهم إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صادفتهم امرأة ومعها صبي فأخذت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحت به جانبا تسأله وهو يجيبها. Donc pendant qu'ils étaient en train de marcher vers la maison du prophète صلى الله عليه وسلم, subitement ils rencontrent une femme. Et cette femme a avec elle un jeune enfant. Alors elle prend le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par la main
et elle s'écarte un peu avec lui pour lui poser une question, et lui il lui répond, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond.
فقال عدي في نفسه إن هذا ليس بمالك فإن من يبلغ هذا التواضع بأن يقف لامرأة ويقبل عليها ثم توقفه ولا يتركها حتى تقضى حاجتها فإن هذا ليس من شأن الملوك وتصرفاتهم ولا من أخلاقهم وإنما هذه التصرفات من أخلاق النبوة.
Donc Adi ibn Hatim, quand il a vu cette scène devant lui, il s'est dit en lui-même, ça c'est pas le comportement d'un roi, parce que les gens pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme un roi, parce que il est à Médine, c'est lui qui dirige. Hein, et il a yani, des choses comme ça. Donc, les gens s'imaginent que c'est un roi conquérant. Il arrive, il voit cette femme, elle vient, elle le prend par la main, elle a son bébé avec elle, et elle lui pose des questions, puis il lui répond, et ainsi de suite. Il dit, ça, c'est pas le comportement d'un roi. Hein? Il est tellement modeste et humble. Hein? N'importe quelle femme comme ça, une pauvre femme, elle vient, elle le tire par la main, puis elle lui demande. Et lui, il s'arrête et il répond à son besoin, il l'aide. Ça, c'est pas l'attitude des rois. Les rois, ils agissent pas comme ça. Et c'est pas ça leur comportement. Ça, c'est uniquement les comportements des prophètes.
ثُمَّ إِنَّهُ ذَهَبَ مَعَهُ يعني إنما قال إنما هذه التصرفات من أخلاق النبوة. ثُمَّ إِنَّهُ ذَهَبَ مَعَهُ إِلَى الْبَيْتِ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسادة وأجلس عدي عليها تكرمة له. وهذه مسألة ثانية أثرت في نفسية عدي رضي الله عنه. ثم جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حوار، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيفرك من أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سواه أو سوى الله؟ لا، قال لا، إلى آخر ما جاء في المحاورة.
Donc, il est parti avec lui vers sa maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré donc avec lui dans la maison. Ils ont posé un coussin pour que Adi puisse s'asseoir. Donc finalement, c'était pour Adi le coussin, c'était... Adi dans le hadith, quand c'était mentionné que la servante elle a posé un coussin, j'ai pensé que c'était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais finalement c'était pour Adi, donc pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire quoi? Le cheikh il dit ça c'était pour l'honorer, ils lui ont mis un coussin par terre pour qu'il s'assoie dessus, ça c'est pour l'honorer. Et le cheikh il dit ça c'est un autre exemple qui a eu un impact en lui-même, qui a eu un effet positif chez Adi. Puisqu'on voit qu'il lui a montré du respect. Puis, il y a eu la discussion entre lui et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, est-ce que ce qui te fait fuir, c'est que tu dois yani, de dire « La ilaha illallah », tu ne veux pas dire « La ilaha illallah », est-ce que tu connais quelqu'un, une autre divinité autre que Allah? Il a dit non. Et ensuite il y a eu la suite de la discussion ensuite, et il dit wa qawluhu ma yufirruk ay ma alladhi yaj'aluka tafir hal huwa alladhi ji'tu bihi innama ji'tu bi la ilaha illa Allah wa anta tuqirru bi la ilaha illa Allah fala ahad yastati'u an yaqul inna hunaka ilahan haqqan ghayra Allah وإلا فالآلهة كثيرة ولكنها باطلة والإله الحق إنما هو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et la parole ici quand il a dit وما يفرك, ça veut dire ما هو الذي جعلك يجعلك تفر, c'est quoi l'affaire qui te fait fuir, qu'est-ce qui fait que tu veux t'enfuir, tu ne veux pas accepter l'islam, pourquoi? C'est quoi l'affaire dans l'islam? Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam qui te fait fuir ou qui te fait peur? Hein? Est-ce que c'est ce que j'ai amené de l'islam qui te fait fuir? Est-ce que c'est parce que j'ai dit la ilaha illallah? Tu t'enfuis de la ilaha illallah? Alors que toi-même, tu acceptes, tu reconnais qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre, qui peut dire qu'il y a une autre divinité qui est vraie en dehors d'Allah. Personne ne peut dire ça. Hein? Parce que sinon, les divinités sont nombreuses. Mais elles sont fausses. Et la seule divinité qui est vraie, c'est seulement Allah, subhanahu wa ta'ala. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مهلة وتلطف به حتى يراجع نفسه ثم عاد إليه مرة ثانية بالقول أيفرك أي يحملك على الفرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم النداء بالله أكبر لكل صلاة وهل تعلم شيئا أكبر من الله عز وجل قال عدي لا أكبر من الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un répit, il a été doux avec lui, il a laissé réfléchir un petit peu, puis il lui a dit encore une autre parole. Il lui a dit, qu'est-ce qui te fait fuir du messager d'Allah, c'est le fait que tu entends Allahu Akbar à chaque prière? Est-ce que tu connais quelque chose de plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Adi ibn Hatim a dit, il n'y a rien qui est plus grand que Allah. Alors il lui a dit ensuite, قوله وقوله فإن اليهود مغضوب عليهم والسبب في ذلك أنهم لم يعلموا أو لم يعملوا بما عندهم من العلم الذي أعطاهم الله إياه من خلال أنبيائهم والرسل الذين بعثوا إليهم فكيف وهم عندهم التوراة التي فيها الهدى والنور إلا أنهم حرفوها وبدلوها ولم يعملوا بما فيها فغضب الله عليهم لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. Donc le cheikh il répond, il continue à expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Et ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs ont la colère d'Allah sur eux. Et le cheikh explique, il dit, la cause de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué ce qu'ils avaient comme science que Allah leur avait donné à travers ou par l'intermédiaire de leurs prophètes et de leurs messagers que Allah leur a envoyés. Donc, ils n'appliquaient pas la connaissance qu'ils avaient reçue et qu'ils ont eue dans la Torah qui est dans laquelle il y avait une lumière, une guidance et une lumière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la place de suivre qu'est-ce qui était dans leur révélation? C'est qu'ils l'ont déformé, falsifié et changé, et qu'ils ne l'ont pas, ils n'ont pas appliqué ce qui était révélé dedans. Et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère contre eux, parce qu'ils n'ont pas appliqué. Donc il dit, celui qui n'a pas su, c'est pas comme celui... il dit ce n'est celui qui sait, il n'est pas comparable à celui qui ne sait pas. Hein? C'est-à-dire les juifs ils savent, c'est pas le problème qu'ils savent pas. Le problème des juifs c'est pas qu'ils sont ignorants. Le problème des juifs c'est qu'ils savent puis ils font le contraire. Donc celui qui sait pas il peut être excusé, tandis que celui qui sait mais qui fait le contraire de la vérité, celui-là c'est encore plus grave. وقوله النصارى ضلال لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال ولا تقبل العبادة إذا كانت على غير علم وعلى غير بصيرة. Donc le cheikh il dit, et la parole, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les chrétiens sont des égarés parce qu'ils adorent Allah avec de l'ignorance et de l'égarement. Et donc une adoration, si elle est faite sans science et sans compréhension, elle n'est pas acceptée. N'est pas accepté d'Allah. Il dit wa qawluhu fa inni hanifun muslimun al-hanif al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwahu. Fa huwa radiyallahu anhu a'lana islamahu bihadha al-qawl. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole ensuite de Adi ibn Hatim, quand il dit, alors dans ce cas je suis un musulman hanif. Le hanif c'est celui qui se tourne vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah. Alors, en disant ça, il a, comme s'il a dit, ça y est, j'accepte l'islam, c'est, je deviens musulman. C'est en disant cette parole, ana inni hanifun muslim, quand il a dit ça, ça c'était pour déclarer son islam, pour dire, ça y est, je deviens musulman.
وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي فوائد عظيمة منها أولا العناية بالرؤساء ودعوتهم إلى الله لأنهم إذا أسلموا هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا ثانيا فيه إنزال الناس منازلهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل عديا بالحفاوة والإكرام لا سيما وهو سيد مطاع في قومه مما كان له الأثر الطيب في نفسه.
Donc le cheikh il énumère les points qu'est-ce qui peuvent être retenus de ce hadith et les choses qui sont bénéfiques dans ce hadith. Premièrement, on voit dans la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec Adi de grands bienfaits. La première exemple de qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne de l'importance aux dirigeants et au fait de les appeler à Allah. Donc quand c'est quelqu'un qui est un dirigeant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup plus d'importance dans leur da'wah et il faisait plus attention à leur faire la da'wah. Pourquoi? Eh non, t'as vraiment bien compris. Donc le cheikh il a dit pourquoi? Parce que s'ils acceptent l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala peut guider par leurs mains un grand nombre de personnes. Hein? Et beaucoup de gens se convertissent par la suite. Hein? Les gens à l'époque, c'était pas comme les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils ont aucun respect pour un dirigeant, surtout les koufars. Ils choisissent un dirigeant, puis le lendemain, ils l'insultent. Les gens ici, ils ont aucun respect. Mais à l'époque, non. Ceux qui étaient les dirigeants en général, c'était souvent les gens qui étaient parmi les meilleurs d'entre eux. Alors, quand ils acceptaient l'islam, eh bien, beaucoup de gens les suivaient. Deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à chacun sa place, son respect, le respect qu'il mérite. C'est-à-dire, il traitait quelqu'un selon le respect qui lui revient. Si quelqu'un était un roi dans son peuple ou un chef de tribu, il lui donnait le respect d'un chef de tribu. Il lui donnait le respect qui lui revient. Il n'allait pas les dénigrer, vous dire, hein? Non. Yani, pourquoi? Parce que, yani, c'est pour lui montrer le respect. Et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli Adi avec hospitalité, hein, avec hospitalité. En particulier parce que dans son peuple, Adi, il est d'un chef obéi. Hein. Et donc ça, le fait de l'accueillir avec respect, avec honneur, ça fait en sorte que ça a un bon effet en lui-même, dans son âme. Il dit, ah, moi je suis un dirigeant, un chef dans mon peuple, on me traite avec manque de respect, on ne m'accueille pas bien, ça lui fait un problème en lui-même, il ne se sent pas bien. Mais si le prophète l'accueille avec respect, avec les honneurs, et il lui donne un coussin, il l'accueille avec respect, eh bien là, il accepte plus facilement la vérité. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire attention, tu vois. Tu ne peux pas dénigrer les gens, leur manquer de respect, puis après espérer que les gens vont prendre de toi quelque chose. Ça fait pas de sens.
ثالثا فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أسئلة قاطعة لا يجد فيها بدا. ثالثا donc فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة قاطعة لا يجد فيها بدا من الإجابة بالحق ودون حيدة فلقد سأله فهل تعلم إلها سوى الله؟ قال لا. قال تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال لا. ثم لم يملك عدي إلا أن يعلن إسلامه لأنه قد انقطعت حجته وتبين له الحق. وهكذا الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون بالتي هي أحسن.
Donc le Cheikh il dit, troisième point, c'est que on voit que le prof, comme si on voit qu'il faut avoir de la sagesse lorsqu'on invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé des questions catégoriques. Il a posé des questions que Yani Ali n'avait pas le choix de répondre soit par la vérité ou Yani de se taire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas se faufiler de ces questions-là. C'est des questions Yani catégoriques et claires. Soit il doit dire la vérité et il ne peut pas se faufiler ou s'enfuir de la réponse. Alors il lui a demandé, est-ce que tu connais en dehors d'Allah une autre divinité? Il a dit non. Est-ce que tu connais quelqu'un, quelque chose plus grand que Allah? Il a dit non. Hein? Puis Ali n'a rien pu faire d'autre que de déclarer son islam parce qu'il n'avait plus d'arguments. Après avoir répondu à ces questions-là, il n'a plus d'arguments. Il a vu clairement la vérité. Et donc ça c'est la base dans la da'wah. Lorsqu'on invite à Allah, lorsqu'on appelle les hommes à Allah, il faut le faire avec la meilleure façon possible. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقدم على قوم علماء يحتاجون إلى مقارعة الحجة بالحجة وجدال بالتي هي أحسن واستعمال الحكمة في الدعوة. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des versets, dans les versets du Coran, et ces deux versets, le premier c'est le verset 125 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, le verset de l'abeille, il dit appelle ou invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et argumente avec eux de la meilleure manière. Et le verset 46 dans surat Al-Ankabut, hein, l'araignée, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et n'argumente pas avec les gens du livre excepté de la meilleure manière. Ouais, mais en fait après ça le verset il dit ensuite illa alladhina zalamu minhum, excepté ceux qui ont été injustes parmi eux. Après il dit وقال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il a dit tu t'en vas vers un peuple des gens du livre, hein, que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça c'est la première chose que tu dois les inviter à faire, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il lui a dit tu t'en vas vers des gens, parmi eux il y a des ulama, parmi eux il y a des savants, et tu vas être obligé d'argumenter avec eux et de répondre à chaque argument par un argument. Donc il faut que tu saches argumenter et dialoguer avec eux de la meilleure façon et d'utiliser la sagesse dans la da'wah. Ça c'est très très important. Na'am. Donc ça c'était pour le premier hadith et l'expression du premier hadith, l'explication pardon du premier hadith. Après il dit وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث. Donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala vient pour prouver la signification de ce hadith là. Le hadith qu'on a lu, il est prouvé par des versets dans le Coran. Il dit قال سبحانه, ça c'est les paroles de Ibn Taymiyyah, c'est le passage numéro 25. Il dit قال الله سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام.
On dirait que Allah il a fait venir ce juif là comme
comme un signe pour clarifier le dars d'aujourd'hui. Parce que le cheikh il a cité le verset 60 dans Surat Al-Ma'ida. Et Surat Al-Ma'ida, c'est une des dernières surahs qui a été révélée dans le Coran. C'est une des dernières et elle parle beaucoup des gens du livre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset que le cheikh a cité? C'est le verset 60 qui dit « Dis, ô Muhammad, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait, de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. » Hein? Donc, 60. Le Cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, dans ce verset, le pronom revient aux Juifs. C'est-à-dire, c'est les Juifs dont Allah parle. C'est-à-dire, il parle des Juifs dans ce verset-là. Et c'est avec eux qu'il parle. Et ça, on peut le comprendre par le contexte du verset. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique... Ouais, parmi eux, il y en a parmi eux qui ont été changés en porcs et en singes à cause de leur désobéissance. Mais comme les ulama ont expliqué dans le tafsir de ce verset, qu'ils n'ont pas eu de progéniture, c'est ceux qui ont été transformés en porcs et en singes, quand ils sont morts, c'est fini, ils n'ont pas eu d'autres. Ils sont morts et ils n'ont pas engendré. Donc le cheikh il dit... لقد كان اليهود يسخرون من الصلاة ولقد قال سبحانه وتعالى في وصفهم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وهذا الخطاب موجه لليهود وكان لسان حال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أنهم قالوا لهم نحن نؤمن بما عندنا وما عندكم وكله من عند الله عز وجل فلماذا تسخرون منا هل لأننا آمنا بالله وهل الإيمان بالله سبب لأن يسخر من صاحبه فنحن نؤمن بما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل والكتب وما أنزل من قبل فالذي ينبغي أن يلام ويعاتب أن أنتم لأنكم أهل فسق وذلك أنكم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل على الرسل فأنتم الفسقة الخارجون والفسق معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit, ça c'est, il dit que les juifs, ils se moquaient de la salat. Les juifs, ils se moquaient de la salat. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le verset 58 et 59. Dans Surat Al-Ma'ida. Et il a dit, et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô Muhammad, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah et à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est le verset qui est révélé avant le verset 60. Hein? C'est le verset qui est révélé avant le verset 60 que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité. Donc, il dit, cette parole est adressée aux juifs. Et l'expression du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des croyants qui étaient avec lui, c'est comme s'il disait aux juifs, nous on croit en ce qui nous a été révélé à nous et en ce que vous possédez vous aussi. C'est-à-dire, on croit en notre livre et qu'est-ce que Allah nous a révélé à nous, les musulmans, et on croit également à ce qui a été révélé pour vous auparavant. On dit que tout ça, ça vient d'Allah. Donc pourquoi vous vous moquez de nous? Est-ce que vous vous moquez de nous parce qu'on croit en Allah? Ou est-ce que la foi en Allah, c'est la chose qui fait qu'on doit se moquer de quelqu'un? Parce qu'il croit en Allah, il faut se moquer de lui. Il dit, parce que nous, on croit en ce qui a été révélé sur nous, c'est-à-dire le Coran, et on croit également en ce que vous avez reçu comme révélation, comme la Torah et l'Injil et les livres, et en ce qui a été révélé auparavant. Donc, c'est qui est-ce qui doit être blâmé? Qui est-ce qui doit être critiqué? C'est pas nous, c'est vous, puisque vous êtes les gens de perversité et les pécheurs. C'est vous, hein, puisque vous refusez de croire en ce qui a été révélé vers nous et en ce qui a été révélé sur les messagers. Et donc ce sont vous, hein, c'est vous qui êtes les pervers et les gens qui ont sorti de la foi. Et il dit ici que le fisq, c'est-à-dire, qu'est-ce que signifie le fisq? Ça signifie de sortir de l'obéissance d'Allah. Donc c'est vous qui êtes sorti de l'obéissance d'Allah. Après le cheikh il dit ثم إن الله جل وعلا رد عليهم ردا مفحما وبين واقعهم وما هم عليه مما لا ينكرونه فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك الذي زعمتم أنه فينا وهو ليس فينا من من لعنه الله الذي والذين لعنهم الله هم اليهود لأنهم الذين حرفوا وبدلوا وخيروا. Tout ce qui est mentionné par rapport aux gens dans le Coran, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des idolâtres ou autres, tout ce qui a été mentionné à propos de quelqu'un dans le Coran parmi ces groupes là c'est mentionné par rapport à des caractéristiques qu'ils ont. Et toute personne qui possède ces caractéristiques-là, en principe, eh bien, lui aussi, il rentre dans la description ou l'appellation ou le terme par lequel il a été nommé dans le Coran. Donc, si quelqu'un à l'époque les Juifs faisaient du fisq et Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés fasiqoun. On l'a dit d'eux que c'était des fasiqouns. Eh bien, toute personne qui fait le fisq, peu importe quelle époque, bien, c'est des fasiqouns aussi, pas seulement les juifs. Même si des musulmans font la même chose que les juifs, ils ont eux aussi des fasiqouns. Tu vois? Et le fisq, il est en deux catégories. Le fisq majeur et le fisq mineur. Donc, il y a le fisq qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est quand quelqu'un... Il renie la vérité, il renie la religion. Donc dans ce cas-là, il va sortir de la religion complètement. Sinon, il y a le fisq mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui commet un péché, qui désobéit à Allah. Hein? Ça, c'est un fisq mineur. Dans ce cas-là, il sort pas de la religion. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu avec une réponse qui les a grillés complètement. Hein? Et qui clarifie leur état et leur situation réelle. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, ou bien il dit, dans le verset 60, dit, ô Muhammad, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution? Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire de pire que ce que vous avez prétendu à notre sujet? Alors qu'il n'y a aucune raison de penser ça à notre sujet, c'est-à-dire de vous moquer de nous et de nous faire des reproches parce qu'on est des croyants. Il dit celui que Allah a maudit, man la'anahu Allah. Et il dit le cheikh que les juifs sont ceux que Allah a maudit. Pourquoi? Parce qu'ils ont déformé la révélation, qu'ils l'ont changée et qu'ils l'ont falsifiée. Donc à cause de ça, ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit walakin laysa kull yahud harrafu wa baddalu wa innama ghulatuhum hum alladhina
fa'alu dhalik. Le Cheikh, il dit un point ici important, il dit, ce ne sont pas tous les juifs qui ont changé la révélation ou qui l'ont falsifié ou modifié, mais ce sont uniquement leurs extrémistes, les extrémistes parmi eux qui ont fait ça.
وقد بين الله حال فريق من أهل الكتاب أنهم مؤمنون خاشعون وأنهم ليسوا سواء. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
Donc le cheikh il dit, donc ce ne sont pas tous les juifs qui ont falsifié ou changé ou modifié la révélation, ce sont uniquement leurs extrémistes qui ont fait ça, ceux qui étaient extrémistes parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié l'état d'un groupe d'entre les gens du livre et il a expliqué que certains d'entre eux étaient croyants et qu'ils avaient de l'humilité, qu'ils étaient humbles, hein, et qu'ils n'étaient pas tous égaux, c'est-à-dire les gens du livre ne sont pas tous pareils. Donc le cheikh il mentionne premièrement le verset 199 dans sourate Al-Imran. Et le verset 199 dans sourate Al-Imran il dit « Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. » Ils ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a mentionné. Après il a mentionné le verset 83 dans Surat Al-Ma'ida qui dit « Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé sur le messager, tu vois leurs yeux se remplir de larmes. » Donc ça c'est le verset 83 dans Surat Al-Ma'ida, puis ensuite le verset 113 à 114 dans Surat Al-Imran. 113 à 114, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah et se prosterne. Ils croient en Allah et au jour dernier ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Donc, le cheikh dit, فَالَّذِينَ شَمَلَهُمْ غضب الجبار هم غلاتهم وطغاتهم الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله فغضب الله عليهم ومسخهم وجعل منهم القردة والخنازير وقصة احتيالهم في السبت غاية في الوضوح. Donc le cheikh il dit ceux qui ont été donc compris dans ou inclus dans la colère d'Allah al-Jabbar, eh bien ce sont leurs extrémistes, leurs transgresseurs qui ont transgressé et qui sont des pervers et qui sont sortis de l'obéissance d'Allah. Donc Allah a été en colère contre eux et les a changés, hein, les a métamorphosés ou changés parmi eux. Il a fait d'eux des porcs et des singes et des porcs. Et l'histoire de leur ruse, hein, lors du sabbat, comment ils ont agi lors du sabbat, eh bien, elle est très claire. C'est-à-dire que c'est des gens qui faisaient des ruses. Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de travailler le jour du sabbat, le samedi. Ils devaient se reposer et adorer Allah. Mais eux, ils ont vu que leurs poissons venaient seulement ce jour-là. Alors, ils ont mis des filets pour attraper les poissons pendant qu'ils avaient le sabbat. Puis après, ils allaient les prendre. Et ça, c'est quelque chose qui venait montrer que il contredisait les ordres d'Allah. Et donc, à cause de ça, ils ont été maudits. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit donc de pécher ce jour-là, mais ils ont mis les filets. C'est ça que le cheikh explique ensuite. Il dit, « Fa'inna Allah
حرم عليهم أن يصطادوا في يوم السبت إلا أنهم نصبوا شباكهم في يوم السبت عملوا حفائر على جانب البحر فجاءت الحيتان وهي مطمئنة فوقعوا في الشباك أو في الشباك فجاءوا يوم الأحد فأخذوها واستحقوا بذلك غضب الله فمسخهم قردة وخنازير وقال سبحانه لقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Donc c'est ça, ils ont creusé des fossés au bord de la mer, puis lorsque les poissons arrivaient, ils arrivaient tranquilles, puis ils restaient pris dans les filets. Puis le lendemain, les juifs venaient pour prendre les poissons, puis ils les ramassaient. Donc c'était une ruse en fait pour prendre les poissons, alors que Allah leur avait interdit de pêcher. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits, et Allah était en colère contre eux, et il les a transformés en porcs et en singes. En plus d'avoir changé et falsifié, parce que ça là, le fait de faire ça fait partie aussi de modifier la religion aussi, tu vois, parce qu'ils sont en train en fait de modifier la religion dans son interprétation, tu sais, ils jouent avec les textes, tu dis, ah, mais on n'a pas le droit de faire ça, mais on va le faire. C'est comme il y a un hadith du prophète Rasulallah qui dit la'natullahi ala al-yahoud, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs. Inna Allah harrama alayhim al-shumuh, harrama alayhim al-mayta wal-shumuh, fajamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamana. Yani, ou comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la malédiction d'Allah soit sur les juifs. Allah leur a interdit les animaux morts et les porcs et ainsi de suite. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces animaux-là, ils ont fait fondre leur graisse, puis ils ont pris leur graisse et ils les ont vendus. Et ils ont mangé le salaire ou le prix ou le profit de qu'est-ce qu'ils ont vendu. Donc c'est comme si ils ont dit, ah mais Allah nous a interdit de manger du porc. Mais il ne nous a pas interdit de le prendre, de faire fondre la graisse, puis de vendre la graisse après, ou l'huile, ou la graisse. C'est une ruse en fait, hein? Parce que si c'est interdit de le manger, c'est pas juste de le manger, c'est de le vendre, de le fondre, de transformer, puis après de le vendre en quelque chose d'autre, c'est la même chose. Donc c'est pour dire, ils sont des gens qui, c'est-à-dire qu'ils utilisent toujours leur intelligence dans le but de détourner les lois d'Allah et de se faufiler à travers les lois. Allah al-Musta'an. Donc, à cause de ça, Allah les a, comme on a dit dans le verset, il les a transformés en porcs et en singes. Il dit, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Le verset 65 dans Surat al-Baqarah. Allah il dit, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Donc ça c'est un exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Donc le cheikh il dit, قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فانظر إلى قوله تعالى من لعنه الله واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل وغضب عليه وهذا أشد والعياذ بالله وإنما استحقوا اللعن والغضب لأنهم عصوا على علم أي على بصيرة. Donc le cheikh il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qu'Allah a maudit, et la malédiction, ça signifie al-la'n en arabe, ça signifie at-tard min rahmatillah, ça veut dire de se faire d'être chassé et éloigné de la miséricorde d'Allah. Wa ghadiba alayhi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala était en colère contre lui. C'est-à-dire, ça c'est encore pire que la malédiction. La colère d'Allah c'est pire encore que la malédiction. Il dit, wal'iyadu billah, que Allah nous en préserve. Il dit, ils ont mérité à cause de leur action la malédiction et la colère parce qu'ils ont désobéi à Allah avec connaissance. Et le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu wa 'abada at-taghut wa fi qira'a wa 'ubuda at-taghut ay alladhina ya'buduna al-asnam, ainsi que ceux qui adorent le tarot, c'est-à-dire les adorateurs des idoles. كما عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله لما صنعه لهم السامري من الذهب على صورة عجل. C'est-à-dire que il dit que comme la même manière que les fils d'Israël ont adoré le veau d'or en dehors d'Allah, lorsque le Samaritain a construit pour eux un veau en or. Hein, un veau, c'est-à-dire il a pris de l'or puis il a fait une forme de veau avec, hein, puis il l'a adoré. Wa hadha ilahukum, il a dit le Samaritain, hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Et nasiya Musa fa dhahaba yabhathu an rabbih wa huwa 'indakum. Subhanallah. Wa yaqsuduna bidhalika al-'ajl حيث عبدوه من دون الله عز وجل فحق هؤلاء أن يذموا ويسخر منهم. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le Samaritain quand il leur a fait le veau d'or? Il leur a dit, ça c'est votre Dieu et le Dieu de Moussa. Mais il a oublié. Hein? Il a oublié Moussa que c'était ça son Dieu. Allah musta'an. Alors, il a oublié qui était son Dieu, donc il est parti pour le chercher, alors qu'il est là parmi vous. C'est-à-dire, ils veulent dire le veau d'or. A'ouzou billah. Donc, ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Et il dit le cheikh, donc ces gens-là, ils méritent vraiment d'être blâmés, et ils méritent vraiment qu'on se moque d'eux, à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait. فالحاصل أن أعداء الله يعيبون على أهل الحق ولكن بفهم مقلوب وأمزجة فاسدة كونهم يعيبون عليهم بما هو مدح عند أصحاب الفطر السليمة كما قال الله تعالى هل تنقمون منا إلا أن آمنا فانظر بماذا عابوا أهل على أهل الحق عابوا عليهم أنهم آمنوا بالله الواحد الأحد. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion ou comme résumé de tout ça, c'est que les ennemis d'Allah, ils blâment les gens de la vérité parce qu'ils ont une compréhension qui est renversée, leur compréhension est inversée, elle était en bas, yani. Leur compréhension elle est corrompue, parce que eux, qu'est-ce qu'ils nous blâment de faire? Ils nous blâment, pourquoi ils nous blâment? Ils nous blâment pour des choses par lesquels on mérite d'être glorifié. Des choses louables, eux, ils nous blâment pour ça. Les gens qui ont une nature qui est saine, qui est propre, hein, et qui ont une fitra qui est propre et saine, yani, ils sont fiers de ça. Ils trouvent que ça, c'est des bonnes choses. Mais les gens qui ont une nature corrompue et que leur fitra est à l'envers, eh bien, ils blâment ceux qui font le bien. Donc le verset 59 dans surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire à ces gens-là, est-ce que vous nous blâmez? Est-ce que vous nous reprochez uniquement d'avoir cru en Allah? Parce qu'on croit en Allah, c'est pour ça que vous nous blâmez? Et c'est ça le problème que vous avez avec nous, comme ils font aujourd'hui lorsqu'on est musulman et qu'on veut pratiquer notre religion. Ils disent, ah mais vous là, vous êtes des extrémistes, vous êtes des intégristes, vous êtes des fondamentalistes, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on veut pratiquer notre religion. C'est ça le blâme que vous nous faites? Parce qu'on croit en Allah? Donc regardez comment ils blâment les gens de la vérité. Hein? Il dit, il les blâme pourquoi? Parce que
il croit en Allah seul, l'unique et le un, celui qui est un, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour là, pour ici. On va s'arrêter ici pour maintenant, Inch'Allah. Puis au cours prochain, on expliquera l'autre verset que le Cheikh a mentionné par la suite. Tout le reste, on voit que Ibn Taymiyyah, une des caractéristiques de Ibn Taymiyyah dans ses livres, c'est que tous ses livres sont remplis des ayats et des hadiths. Et en fait, ces livres, c'est un des ulama que tu constates que il ramène les gens toujours aux preuves du Coran et de la Sunna. Et il ramène pas juste une seule preuve ou un seul verset ou un seul hadith. Il ramène des dizaines et des dizaines de preuves à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire les explications de Cheikh Al-Fawzan de ces livres-là, parce que ça devient en même temps comme un tafsir. Ça devient en même temps comme un tafsir de ces versets et de ces hadiths. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.